Toronto, listen up. If you're into live music, art, spoken word, wellness, community, and just good vibes, then you're going to want to listen up. Kumba is Toronto's largest Black Futures Month festival, and it is back at Harbourfront Center this February. Now check this out. Kumba 2026 is all about celebrating Black creativity, culture, and the future-shaping contributions of Black communities through a mix of ticketed, free, and pay-what-you-wish events, making space for everyone to join in, no excuses. So, you can expect a legendary Jimmy Cliff tribute concert, plus an iconic drag show with Hollywood Jade Presents Diva, and a soulful Valentine's Day music special with Sean Jones, plus much, much more. Now, Kumba 2026 is presented by TD Bank Group through the TD Ready Commitment, which supports equity, access, and opportunity for Black artists and communities. So you need to do one thing. Mark your calendar, BG Squad, because all the fun is going down from February 1st to the 28th, so you better make sure I see you.
Hey, I'm Sheldon Williams, the president of the Canadian Caribbean Association of Halton, and I'm excited to launch 2026 Black History Month theme out of Many Cultures, One People.
Out of Many Cultures, One People reminds me that there's really no single way to be Black. Black History Month is a celebration for all of us, honoring every culture, every story that makes up our beautiful shared heritage.
This year's theme means flags from all over the world are seen, people are included, and voices are heard.
This year's theme means that all of us are required to commit to collective action, education, and advocacy efforts to rebuild with equity for a brighter future.
For me, out of Many Cultures, One People means all of the diaspora of Black individuals being celebrated for the next 28 days and beyond, because we're not just Black in February.
Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Comme à chaque année, Popourri Show et CUTFM, en partenariat avec Sophie Franc, fait place à l'événement incontournable de l'année. Festival Festive Ébène 2026. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs au Niagara. Toute une programmation et gala d'excellence du 5 au 28 février. Des découvertes, des expositions, du cinéma, des journées littéraires à Sainte-Catherine et à Welland. Et les émissions spéciales tout au long du mois de février sur CUT 89,5 FM à ne pas manquer. Festive Ébène 2026, célébrons le mois de l'histoire des Noirs au Niagara. Soirée de gala le 28 février avec une pléiade d'artistes et d'auteurs. Réservez immédiatement votre place. Plus de détails sur les événements de Sophie Franc et de nos alliés et partenaires sur popourrichaud.com. Février 2026 marque la 30e année où le mois de l'histoire des Noirs est célébré au Canada. Le thème de cette année est par conséquent le mois de l'histoire des Noirs à 30 ans. Honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires. Ce thème reconnaît l'héritage durable des Canadiennes et des Canadiens noirs, dont leur leadership, leur créativité, leur innovation et leur résilience qui ont façonné notre passé, influencent notre présent et inspireront les générations à venir. Bon mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pori@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
Mois de mars, mois de la francophonie. Le mois de la francophonie met à l'honneur la langue française et la diversité culturelle des pays francophones. Ces célébrations sont organisées à l'échelle mondiale par des institutions francophones, des gouvernements, des associations et des communautés qui partagent l'usage du français. Tout au long du mois de mars, Popourri Show et ses partenaires vous invitent à de nombreux événements, jeux concours, concerts. Et oui, avec nos amis Francophonie en fête, émission spéciale et tirage au sort de cadeaux surprises. Mois de mars, mois de la francophonie, en partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques, l'Organisation Internationale de la Francophonie et les rendez-vous de la francophonie, RFI, France 24 et TV5 Monde. Mois de mars, mois de la francophonie, 40 ans sur CUTFM, le son de votre ville.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse, et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Et oui, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM Toronto. Et je remercie DJ Devera, l'ingénieur du son et tous les médias et DJ partenaires à travers le monde qui nous accompagnent depuis 40 ans. 40 ans d'histoire, de mémoire, témoins privilégiés de l'évolution du paysage médiatique de Toronto et du Canada. Le passage du studio traditionnel à la radio numérique, la révolution et la menace de l'intelligence artificielle aux médias et la pérennité de CUTFM à travers des décennies de changements culturels, linguistiques et sociaux de la ville reine. Merci d'être là.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Mary Ann Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continue de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
CUTFM, Popourri Show, en partenariat avec Sophie Franc et le Festival Festive Ben, présente la 30e édition du Mois de l'Histoire des Noirs. 30 ans d'histoire, 30 ans de lutte, de résistance et de passion. Chaque dimanche, de 11h à 13h, sur CUT 89,5 FM et en ligne sur www.cut.fm, la Radio Campus de l'Université de Toronto. Honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires. Pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, Popourri Show et ses partenaires vous proposent une programmation spéciale et des activités pour honorer la contribution exceptionnelle des communautés noires à la société canadienne. Concerts, projections de films, expositions, colloques, tables rondes, émissions spéciales sur CUTFM. Retrouvez tous les rendez-vous sur popourrishow.com. Merci à nos partenaires Festival Festive Ben, Batuki Music Society, Harbourfront Center, le Conseil de la communauté noire de Gatineau, la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec et la ville de Montréal et Ville La Salle. Quels sont les efforts faits pour enseigner ces pans oubliés de l'histoire dans les écoles du Canada? De Mathieu Dacosta, navigateur et interprète, première personne d'origine africaine, dont la présence au Canada remonte au début des années 1600. Personnage méconnu jusqu'aux plus récentes vagues des Afro-Canadiens. Je vous invite, madame, monsieur, à découvrir des personnages de la communauté noire qui ont marqué l'histoire du Canada. Par sa mission, son statut et ses productions, CUTFM nourrit l'identité culturelle canadienne et façonne aujourd'hui le Canada de demain.
Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, Give me some drums. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite.
Au programme ce dimanche, nous sommes en direct au Festival Kumba, édition 2026 au Harbourfront Center, en pleine célébration du mois de l'histoire des Noirs. Une édition spéciale marquant les 30 ans du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Et notre partenaire Nadine McNulty, eh oui, fondatrice de Batuki Music Society et animatrice à CUTFM, et sa belle équipe vous attendent en grand nombre ce dimanche 15 février dès 19h au théâtre de Harbourfront, Harbourfront Center, 231 Queens Quay West. On vous promet non seulement une soirée envoûtante et ensoleillée, mais aussi une vitrine exceptionnelle de musique afro-francophone, de Montréal-Bénin avec Karine au micro, du Nigeria avec le musicien multi-instrumentiste Boubé, et enfin Naxa Bitota de la République démocratique du Congo. Une belle brochette d'artistes à découvrir absolument ce soir dès 19h au Harbourfront Center dans le cadre du Festival Kumba en partenariat avec batukimusic.com, à découvrir sur popourishow.com. Le 28 février, Batuki Music Society vous invite à un concert mettant en vedette Tianké, le Sénégal spirituel, une pratique culturelle vivante, enracinée dans les traditions séculaires des marabouts, avec plusieurs artistes sénégalais. Eh oui, rejoignez-nous pour une soirée de rythme envoûtant, de chants vibrants et de mouvements hypnotiques, et découvrez les traditions sénégalaises telles qu'elles sont vécues, vivante, collective et inoubliable. Présenté par batukimusicsociety.com en partenariat avec le musée Aga Khan. Et oui, on vous attend, madame, monsieur, le 28 février au musée Aga Khan, 77 promenade Winford Drive. Et oui, Toronto, coin Don Mills et Eglinton. Plus d'infos sur batukimusic.com ou popourishow.com. Le festival Festiveben de Niagara, produit et présenté par notre partenaire Sophie Franc, a connu un vif succès lors de son lancement le 5 février dernier. Plusieurs activités sont actuellement en cours, et oui, cela se durera tout au long du mois de février. Et ne manquez pas la grande soirée gala le 28 février avec plusieurs artistes aux couleurs haïtiennes, africaines, dont Miss Blandine et un humoriste hors pair qui n'a pas froid aux yeux. Retrouvez toute la programmation de Festive Eben sur sophiefranc.org ou popourishow.com. Et justement, voici un extrait d'une chanson de Miss Blandine, artiste invitée de Festive Eben, le 28 février à Wellen. Je vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs.
Venez danser, venez bouger, Blandine est dans les bancs, Boyo Camille, c'est Blandine.
Toujours en avant, on y va. Hey, oh ouais. Alex Boissel, allez tout à tout, à New York, allez moins à moins, allez tout à tout, et M Record, allez moins à moins, et dans les bons, en allez bon, et dans les bons, et dans les bons, les Français, en et dans les bons, allez ni bidon, aïe, coach, dans mon morning night,
écoles, sur les terrains de basket, comme à la Maison Blanche, chaque année, en février, les États-Unis fêtent le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Cela fait bientôt 100 ans que ce rendez-vous historique existe, mais d'où vient cette célébration ? C'est Carter Godwin Woodson qui a eu cette idée. Ce fils de deux esclaves affranchis est considéré comme le père de l'histoire afro-américaine. Il est seulement le deuxième homme noir à avoir obtenu un diplôme de l'université de Harvard. Et 50 ans après l'abolition de l'esclavage, il lance l'idée d'une Negro History Week, dont la première édition a lieu en 1926. Woodson veut encourager les Afro-Américains à s'intéresser davantage à leur histoire, et surtout, il veut que celle-ci soit enseignée dans les écoles. Il choisit la deuxième semaine de février pour cette célébration, car c'est à la fois l'anniversaire d'Abraham Lincoln et de Frederick Douglass, les deux grandes figures de l'abolitionnisme aux États-Unis. Peu à peu, le rendez-vous s'impose dans les États et les villes les plus progressistes. Woodson meurt en 1950, mais son idée lui survit. En 1976, pour le bicentenaire des États-Unis, le président Gerald Ford en fait une célébration officielle et la semaine devient un mois de l'histoire des Noirs. En 2016, Barack Obama en fête le 40e anniversaire par ces mots « Depuis nos origines, l'histoire des Noirs, c'est l'histoire des États-Unis ».
Cette année, le mois de l'histoire des Noirs fait débat dans plusieurs secteurs de la société, tant au Canada et aux États-Unis. Par peur de représailles, c'est silence radio dans nos départements de français à l'Université de Toronto et dans certains médias francophones. Mais pourquoi ce silence, ce renoncement ? Êtes-vous du côté du monde juste, équitable, ou êtes-vous plutôt du côté d'un certain Donald Trump qui est en train de torpiller la démocratie? Écoutons.
Oui, M. Chair, on va regarder une vidéo qui est complètement dérangeante, qui a été publiée sur le site X Truth Social de Donald Trump. On voit les Obama, Michelle et Barack comme des singes, c'est vraiment un raciste, décomplexé. C'est un peu particulier aujourd'hui parce que nous, on l'a vu tôt ce matin, on en a parlé, les médias américains ont comme allumé un peu en fin d'avant-midi, les républicains, certains, sont sortis en disant « ça n'a aucun bon sens, c'est raciste, faut que la Maison-Blanche retire cette vidéo ». La Maison-Blanche s'est défendue en disant « mais non, Trump c'est le roi de la jungle, puis les autres c'est comme les personnages du roi de la jungle ».
Les visages de Barack Obama et de son épouse Michelle, posés sur des corps de singes, dans une publication du président des États-Unis. Cette image, raciste et outrancière, est issue d'une vidéo publiée par le compte de Donald Trump la nuit dernière. Elle relaie au départ une théorie du complot qui estime que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée par les démocrates, lorsque tout à coup, surgit cette séquence insultante.
Les dérapages de Donald Trump sur son réseau social, on ne les compte plus depuis son retour à la Maison-Blanche, mais cette vidéo qu'il a partagée il y a quelques heures, et puis ensuite supprimée, suscite vraiment l'indignation. Malgré tout, Anne-Sophie, on y voit, donc je le rappelle, l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle Obama assimilés à des singes.
Voilà, c'est assez particulier parce qu'il faut dire qu'hier dans la nuit, Donald Trump aurait partagé énormément de publications sur Truth Social, mais entre autres, une vidéo où on voit ceci à la fin, en effet, Barack Obama et Michelle Obama dépeints comme des singes. C'était vraiment une longue vidéo où on parlait de l'élection 2020 qui avait été volée, là, des fausses affirmations non prouvées selon laquelle Donald Trump avait perdu l'élection face à Joe Biden. Et ensuite, à la fin, 2-3 secondes, on voit cette vidéo. Donc plusieurs se sont demandé comment ça s'est retrouvé là. Des journalistes américains qui ont fait des recherches, qui ont retrouvé cette vidéo-là originale où on voit plusieurs démocrates dépeints comme des animaux et Donald Trump dépeint comme le roi de la jungle, le lion. Bref, vous voyez le genre. Et ça a tellement stimulé de réactions, tout ça, que finalement, Donald Trump et son équipe ont retiré la vidéo là, il y a quelques heures de son réseau Truth Social. Mais voyons ses réactions justement parce qu'il y a plusieurs démocrates, mais républicains aussi, dont Tim Scott, qui est le seul membre du Parti démocrate, républicain, pardon, au noir, qui a publié ceci. Il dit « J'espère que c'est faux parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue de cette Maison-Blanche. » Il a demandé au président de la retirer. Vous allez voir aussi cette publication du gouverneur Newsom, là, justement, qui a dit que c'était complètement ignoble et que chaque républicain devait dénoncer cela. Et c'est justement ce que plusieurs ont fait. Là, on a compté une dizaine de républicains quand même qui ont publié des messages comme celui-ci de Mike Lawyer qui dit que la publication est inacceptable et profondément offensante, que ce soit volontaire ou non. Là, comme je vous le disais, ça a été retiré, mais plutôt Karen Levitt disait que ça venait d'une même vidéo sur Internet qui montre le président comme le roi de la jungle, les démocrates comme des personnages du roi lion. Elle a dit « Arrêtez l'indignation fabriquée et couvrez aujourd'hui ce qui est important ». Mais pour certains, pour plusieurs, cette vidéo est tout simplement raciste et a vraiment franchi la ligne. C'est ce que nous disait un expert un peu plus tôt sur nos
ordres. Mesdames et messieurs, chers internautes, président Donald Trump soutient les États-Unis d'Amérique avec un poste qu'elle fait sous réseau social l'IA, côté que l'y montrer dans une vidéo qui était tout coûte, président Barack Obama, non capable d'y ancien président, ensemble avec tout Michelle Obama, il te mette yo tant coup yo te semblé avec un singe, côté que l'y te fait des commentaires qui très 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 déplacés, et bien post ça, t'as pas le tombé tant coup yon gasoline qui n'a dit fait qu'a bouilli les États-Unis d'Amérique dans le moment n'a parlé là. Ralenti chez Ushita, nous pral boire tout détail en façon pour capable comprendre exactement qui ça va galayer. Parce que là, faut que nous voyons des détails de dossier yo, qui conséquence cap vini pour président Donald Trump par rapport ensemble avec Kossa, et nous voyons expliquer tout qui réaction républicain yo, parce que y en a des qui pas content ensemble avec action ça que président Trump pose à démocrate yo n'en bo pa yo, eh bien yo senti yo fâché, yo estomaqué. Dans la vidéo, ça nous va le décortiquer pour vous. Eh bien, qui ça va galayer?
Voilà, l'image furtive qui est glissée. Le couple Obama grimé en singe. Montage profondément raciste, bien sûr, qui a provoqué un tollé chez les élus de tous bords aux États-Unis. Le sénateur républicain Tim Scott a appelé le président à retirer cette publication. Réponse de la Maison-Blanche, je vous la lis. Ceci est extrait d'une vidéo où Trump est représenté en roi de la jungle. Arrêtez cette fausse indignation. Alors ce soir, on l'a vérifié, la vidéo a été supprimée du compte de Donald Trump. Thomas Negaroff, on le disait tout à l'heure, vous jouez en ce moment même au Théâtre de la Pépinière, un seul en scène sur le racisme aux États-Unis dans les années 50. Il ne mérite pas telle arme, c'est le titre.
Ouais.
Au-delà de l'ignominie, bien sûr, de cette publication, le fait que la Maison-Blanche, comme ça, assume, ça veut dire quoi?
Bah d'abord, c'est Trump assume toujours. Mmh. Ça, c'est une règle. Il assume toujours. L'histoire du racisme aux États-Unis. Alors, la pièce commence le 20 février. Ça n'a pas commencé encore. C'est l'histoire des neuf de Little Rock. C'est neuf élèves noirs qui sont les premiers à entrer dans le lycée réservé aux blancs jusque-là aux États-Unis. C'est une histoire terrible de racisme américain. Et hier soir, je le jouais. Et après le spectacle, une jeune fille m'a demandé si cette histoire appartenait au passé. Mmh. J'avais pas encore vu cette histoire. Mais je vais vous dire une chose. En 2016, quand j'ai écrit le livre qui donne le spectacle, le livre s'appelait Little Rock 57, je travaillais donc... Trump n'était pas encore président des États-Unis, il était déjà candidat, il allait gagner quelques mois plus tard. Et il y avait là son fameux slogan « Make America Great Again ». Sur un des murs du quartier noir dans lequel j'ai rencontré Elizabeth Eckford, la jeune fille qui est sur l'affiche du spectacle, c'est une photo iconique où il y a une jeune fille qui l'insulte et qui lui hurle « Retourne en Afrique ». On n'est pas très loin de ce qu'on vient de voir là. Je reviens en 2016. Sur un mur d'un quartier noir de Little Rock, il y a écrit non pas « Make America Great Again », mais « Make White America Great Again ». Rendre à l'Amérique blanche sa grandeur.
Vous auriez pu jouer cette pièce, on va vous retrouver au Théâtre de la Pépinière le 20 février, sans Donald Trump? Parce qu'il faut peut-être, pour aborder le futur, regarder le passé.
Oui, c'est ça, alors la vraie question, c'est que je crois que cette pièce, je ne pourrais pas la jouer aux États-Unis aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est que l'Amérique de Trump, le trumpisme refuse qu'on raconte cette histoire, mais aussi parce que ça ne vous a pas échappé que je suis blanc, et qu'aux États-Unis, un blanc qui joue une jeune fille noire, ça ne serait pas acceptable non plus. Donc il y aurait une espèce de tenaille identitaire. Et si vous avez une seconde, je peux vous raconter pourquoi je me suis permis de le jouer. Parce que quand j'étais prof d'histoire géo, il y a bien longtemps, j'avais emmené une classe de Pantin, où j'étais prof, à Auschwitz. Et j'avais un élève noir dans cette classe. Et au retour, on a vu les parents, on a expliqué le voyage. Et cet élève, qui s'appelait Michael, m'a donné une leçon de vie et je suis très heureux de vous la raconter ce soir. Sa leçon de vie, c'est de me dire, quand M. Snegaroff nous a proposé son voyage à Auschwitz, je me suis dit, ça va être une histoire très intéressante, mais c'est pas la mienne. Mon histoire, c'est l'esclavage et la colonisation.
Ouais.
Et il revient et il dit, je me rends compte que cette histoire, c'est aussi la mienne.
Ouais.
Donc il nous raconte le caractère universel de ces histoires, que ce soit la Shoah, que ce soit ces histoires-là, et donc c'est important de la raconter aujourd'hui.
Merci Thomas Snegaroff, qu'on retrouvera à partir du 20 février sur la scène du Théâtre de la Pépinière.
Merci beaucoup.
Et oui, je ne voulais pas pour rien au monde passer sous silence cet acte raciste de Donald Trump, qui a été repris à l'échelle mondiale. Selon la Maison Blanche, Donald Trump n'y est pour rien. Personne ne croit à cet enfumage de la Maison Blanche, d'autant plus qu'ils avaient initialement défendu cette publication. Nous savons tous parfaitement qui est Donald Trump et quelles sont ses convictions. L'indignation a gagné jusqu'au camp conservateur, où les critiques à l'encontre du président américain sont généralement inexistantes ou très feutrées. Donald Trump est un charognard, pernicieux, ignoble et détraqué. Quel beau message pour la jeunesse noire des États-Unis et du monde. Toute personne sensée voit le contexte raciste de cette vidéo extrêmement insultante. Il ne faut pas s'attendre de recevoir des excuses de Donald Trump. Il ne le fera jamais. Cette publication est une grave erreur de jugement et absolument inacceptable de la part de quiconque, et tout particulièrement de la part du président des États-Unis. À bon entendeur, salut.
We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Le Festival Jeunesse de Ciné Franco est un événement cinématographique annuel à Toronto qui propose des films francophones du monde entier aux élèves et aux enseignants pour enrichir l'apprentissage du français et la découverte culturelle. Et oui, ce festival revient pour une 18e édition qui se tiendra du 17 février au 2 mars au cinéma Cineplex Empress Walk, 5095 rue Yonge, Toronto. La vaillante équipe de Ciné Franco Jeunesse a sillonné toutes les sources possibles de films pour vous plonger dans l'humour, la poésie visuelle, la fantaisie, mais aussi dans une certaine gravité maîtrisée. Ces films sont des récits à hauteur d'enfants et d'ados qui mêlent plaisir, découverte et envie de discuter et de parler, en français bien sûr. Dans tous les cas, les enfants ou ados sont des protagonistes confrontés à des défis qu'ils gèrent avec courage, résilience, prouvant l'importance de la solidarité, de l'amitié, de la famille, du respect pour la mémoire, de l'histoire et de la lutte contre l'injustice et la discrimination. Marceline, l'infatigable fondatrice de Ciné Franco, vous y attend nombreux. Du 17 février au 2 mars, au Cinéplex Cinéma Empress Walk, 5095 rue Yonge, Toronto. Le coût de chaque billet est de 10$ par élève et c'est gratuit pour les profs. Veuillez visiter cinéfranco.com et remplissez le formulaire en bas de la page pour réserver votre place. De 11h à 13h. Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Sophie Franc, solidarité, action, innovation. Et oui, cette émission réalisée en partenariat avec Sophie Franc, qui signifie solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara. Sophie Franc est un organisme communautaire sans but lucratif, créé en 2007 par des femmes immigrantes originaires de diverses parties du monde. Sophie Franc a pour but d'accompagner les femmes et leurs familles dans leur processus d'intégration au Niagara en offrant des services dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Grâce à l'engagement de ses bénévoles, Sophie Franc conçoit, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins spécifiques et actuels de la communauté des immigrants francophones du Niagara. Tout au long de l'année, Sophie Franc vous invite à une multitude d'activités communautaires, culinaires, culturelles, littéraires et sportives. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves, vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et sur son site web sophiefranc.org ou tout simplement sur popourichaud.com. Sophie Franc, solidarité, action, innovation et fier partenaire de Popourichaud et CUT FM.
Bonjour, je m'appelle Fété Ngirabatoare Kimpiobi. Je suis la directrice générale de Sophie Franc. Sophie Franc est un organisme à but non lucratif qui offre des services communautaires aux populations immigrantes francophones du Niagara. À propos de l'histoire des Noirs, en réalité, l'histoire des Noirs se vit et s'écrit au quotidien durant les 365 jours de l'année, vous conviendrez avec moi. Cependant, le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février, est une opportunité pour la communauté immigrante et pour la communauté canadienne en général de célébrer et de reconnaître en même temps les accomplissements et l'apport, que ce soit économique, social et culturel, dans le développement du Canada. Le mois de février est une vitrine qui nous permet de rappeler tout ça à nos communautés et à toutes les communautés, les autres communautés culturelles du Canada. Je souhaite à toutes et à tous un excellent mois de l'histoire des Noirs. Merci.
On s'intéresse sans concession à une question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être noir? Comment exister quand on est quasiment absent de l'imaginaire collectif? Chaque semaine, notre émission déconstruit les clichés, interroge les identités et révèle le piège du regard blanc. La vie en noir, une présentation de Popourichaud en partenariat avec France Culture.
France Culture.
On commence par un truc qu'on fait pour tous les entretiens, c'est qu'on demande à la personne de se présenter, de te décrire physiquement.
La vie en noir.
C'est chaud, hein.
Pour que on... tu vois, et de te décrire comme tu penses que les gens te voient.
Ouais. C'est horrible.
Mais si tu veux pas le faire, t'es pas obligé.
Ouais, mais c'est un exercice marrant.
Une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelboum.
Je suis pas spécialement, je suis pas maigre, mais je suis pas gros, je suis pas très musclé, je suis barbu.
Je suis métisse, comme on dit, c'est-à-dire mon père est guinéen et ma mère est française, donc j'ai la couleur qui va avec.
Que dire d'autre? Je suis grande, je suis 1m75, je suis noire, j'ai les cheveux naturels, souvent en afro.
Oh my god. Ah non, mais c'est comment dire, c'est deep. C'est deep.
Ouais, c'est deep. Je te dis, peut-être je peux pleurer à des moments. Hein. J'ai pleuré là-bas. Quand les gens disent des trucs très...
Pas, sinon ça va me... Sinon tu vas m'entraîner.
Non, mais juste, voilà, je préviens.
Spoiler alerte, je peux pleurer. Mais ça va, ça va.
Épisode 1. Dans le noir, je ne me vois pas. J'ai grandi enfant noir dans une famille blanche. Je n'avais jamais vu de noir. Je ne savais pas que j'étais noir. Ou plutôt, je ne voulais pas l'être. J'ai grandi dans une société où l'on m'apprenait à me dissoudre dans le monde, à faire de cette couleur une absence, à croire que le silence serait ma force, que la conformité serait un passeport vers l'acceptation. J'ai cru que si je n'étais pas visible, si je ne dérangeais pas, si j'étais le moins noir possible, ce monde finirait par m'accueillir. Mais ce monde, le monde blanc, lui, ne me voyait jamais. Il inventait des histoires à ma place, des images, des clichés. Il me refusait le droit de me raconter, de me nommer, de me reconnaître. Alors, j'ai couru. D'abord pour fuir ce que j'étais, pour m'inventer, pour me protéger. Et puis j'ai compris que je courais pour me retrouver, pour chercher le noir que l'on n'enseigne pas, que l'on efface, que l'on détourne, pour me voir dans la rue, dans l'histoire, dans les livres, dans les musées, dans les mots.
Important de mon identité, je me définis pas que par ça.
Je cours pour comprendre ce que cela signifie, être noir dans un pays qui préfère que nous soyons invisibles. Pour questionner cette société qui m'a appris que mon corps, ma peau, mes cheveux, étaient un problème à corriger,
je suis également,
à expliquer, à apprivoiser.
On va dire l'archétype de la femme africaine.
Pour retrouver le fil de ma propre histoire, dans l'histoire des Noirs, celle qui traverse les siècles d'esclavage, de migration, de lutte, celle que les livres n'enseignent pas, celle que nous portons en nous-mêmes. Je cours pour voir le noir qui n'est pas le cliché. Le noir qui est humain, multiple, complexe, entier. Le noir qui rit, le noir qui pleure, qui se bat, qui aime, qui pense, qui a peur. Le noir qui refuse la simplification, l'assignation, l'invisibilisation. Et d'ailleurs, c'est quoi ce mot « noir » ?
C'est un mot que j'aime beaucoup, à vrai dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop qu'on utilise ce terme « noir » pour les désigner, qui pensent qu'il est plein de significations négatives, ce qui est vrai.
Norman Ajari,
dans notre histoire culturelle, c'est un mot qui a souvent été connoté négativement.
Philosophe.
Le noir, c'est l'absence de couleur. Si bien que, et ça c'est quelque chose qui est assez amusant, on parle souvent de la négritude, le mouvement de la négritude, qui est un mouvement pour lequel j'ai une immense admiration. Mais quelque chose que je trouve très intéressant à propos de ce mouvement, c'est que le terme qu'ils ont choisi pour se désigner, c'est précisément le mot nègre. Alors que aujourd'hui, souvent sous l'influence américaine, on considère que c'est le terme le plus tabou, le plus insultant.
Ce qui s'est réellement passé et qui a produit le présent que nous habitons aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut réparer, en fait. Je ne vois pas comment on peut réparer. C'est pas possible. On rate une étape. Et donc les gens, en vérité, parlent de choses et s'opposent à des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, c'est ma position sur le sujet. Je passe mon temps à discuter ou à me battre contre des gens, contre des personnes que je trouve tout simplement ignorantes. Je suis américaniste. À l'origine, la question noire, je l'aborde par le biais des Amériques et par le biais des États-Unis en particulier, les États-Unis et la Jamaïque. Et donc cette question noire française, je l'ai vraiment abordée de biais. Au départ, c'était vraiment une question taboue. C'est une question qui n'existait pas. Il y avait la question de l'Afrique. Il y avait la question de l'immigration, mais il y a la question de ma propre existence étant née à Paris, en France hexagonale, allait de pair avec ce sentiment de ne pas exister. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été attirée, comme tant d'autres, par l'histoire africaine-américaine. Et si vous regardez plusieurs personnes qui se sont imposées dans les dans l'histoire des Noirs de France ces dernières décennies, vous remarquerez que souvent c'est des américanistes. Pape Ndiaye est un américaniste. Audrey Célestine a beaucoup travaillé sur les Amériques également. Sarah Filabaca-Badio est une américaniste. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Tout le monde est passé par les États-Unis avant de s'arroger le droit de parler de la France et depuis la France.
Pourquoi ça nous est apparu? Nous, on a enfin compris avec cette exposition qu'en fait, il y avait des Noirs et pourquoi on ne le savait pas?
C'est ce que je dis toujours, que je partage avec mes étudiantes et mes étudiants. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce à quoi on est disponible. Non, je ne vais pas le formuler comme ça. On ne voit que ce à quoi on est disponible. Où on ne peut voir que ce que l'on veut bien voir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que c'est la pression sociale. Je dirais la composition d'une société mixte racialement qui fait pression sur la manière dont on reçoit les tableaux, y compris du 19e siècle. Et donc cette actualisation des tableaux par la société française d'aujourd'hui fait que la présence de figures noires est devenue beaucoup plus accessible finalement aux conservateurs, aux gens qui travaillent dans les milieux de l'histoire de l'art, etc. C'est-à-dire que je pense que chaque génération active des choses nouvelles, y compris dans l'histoire, y compris dans les tableaux. Et en l'occurrence, je pense en 2019, mais mettons dans les années 2000, 2010, 2020, le fait que la société française elle-même soit plus composite fait qu'il a été possible de remarquer un certain nombre de personnages, d'individus dans les tableaux, qui étaient noirs en l'occurrence, en écho avec ce qui se produit justement socialement. Donc les musées sont très poreux finalement hein, à la société. Donc il est normal que finalement on aille chercher dans l'histoire un certain nombre de sources finalement, d'une histoire longue en l'occurrence de l'histoire noire.
Est-ce que, j'imagine que ça doit vous arriver aussi, ou ça vous est arrivé, est-ce que c'est qu'être dans un musée, par exemple, pensez comme celui d'Orsay ou du Louvre, et de voir apparaître des visages noirs, des corps noirs. Enfin, c'est aussi ça, être au musée, et quand on vagabonde ou bagnote, c'est aussi s'arrêter sur des mains, des pieds, des yeux, l'ovale d'un visage. Mmh. Et aussi la surprise, la joie aussi, de aussi peut-être regarder dans un tableau comme on se regarderait dans un miroir.
Alors moi j'ai un biais terrible parce que je n'ai fait que ça pendant des années, c'est-à-dire pendant 10 ans je ne faisais que ça, chercher les noirs dans le tableau, hein, c'était mes Charlie à moi. Donc oui, il y a pu avoir des moments de réjouissement, de grand plaisir ou de surprise. Là j'ai vraiment peut-être un biais professionnel qui fait que pour moi c'est systématique de chercher ce type de, et je dirais ça va au-delà de ça même maintenant, c'est-à-dire j'essaye de comprendre dans quelle mesure, je veux dire au sens très très large, l'Afrique laisse une empreinte dans la construction de la modernité de 1500 à 1900. Ça veut dire aussi regarder un certain nombre de, par exemple l'acajou, on sait que c'est le bois de prédilection des arts décoratifs du 18e siècle, essayer de voir quand on le voit surgir, puisque c'est un bois qu'on trouvait en Afrique centrale et dans les Caraïbes, donc qui est tout à fait lié à l'histoire de l'esclavage. Je regarde par exemple tous les objets en ivoire aussi, essayer de comprendre d'où ils viennent, comment ils arrivent, comme un ingrédient, je dirais, dans la fabrique du chef-d'œuvre, etc. Donc les personnages noirs, ça a été ma première entrée, mais finalement, d'une manière générale, il me semble que l'histoire coloniale est beaucoup plus présente qu'on en a conscience. Et c'est vrai que s'il y a une chose qui m'intéresse actuellement, c'est de le faire surgir là où on s'y attend le moins. Et de montrer que, y compris dans la fabrique du chef-d'œuvre, des beaux objets, etc., la question coloniale est omniprésente. Donc oui, j'ai cette déambulation intéressée, je dirais. Elle l'est peut-être même un petit peu trop, puisque du coup, je fais la sélection sur plein d'autres choses que je ne regarde pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on voit ce à quoi on est disponible, en fin de compte, parce qu'on cherche des choses. Et c'est peut-être l'intérêt, je dirais, de ce moment 2019, hein,
c'est que ça a transformé aussi l'approche des tableaux. C'est-à-dire, c'est de se dire, finalement, ce qu'on a cru savoir, ce qui était implicite, l'entre-soi, le beau, le vrai, au 19e siècle, ça peut être...
Ne me venez pas me chercher sur les trucs de République, de Lumière, etc. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait vraiment me faire sortir de mes gonds, alors que je suis quelqu'un de plutôt pisse. Mais c'est un peu la condescendance de Français blancs qui savent qu'il suffit de dire universalisme pour que les minorités se taisent. Et vous êtes tombé sur le mauvais exemple. Moi, j'ai vraiment fait les travaux, j'ai vraiment lu les trucs, etc. Je me suis renseigné, j'aime bien en plus. Donc arrêtez, quoi. Voilà, ouais, c'était ma petite diatribe sur ça.
C'était Dans le noir, je ne me vois pas, avec Norma Najari, Penda Diouf, Nadia Yala Kisukidi, Anne Lafont, Kevin Donna, Maboula Soumaoro. Un grand merci à Senabou Sonko et Roméo Mivekano. Prise de son Tahar Boukhlifa, Élise Leu, Clément Vuillet, Julien Girard. Mixage Nadège Antonini, documentation d'actualité, Anne-Lise Signoret, Eva Canéparo, documentation musicale, Antoine Villoz, Nathalie Rouvillain, Samy Messaoui. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. La vie en noir, une série documentaire de Sébastien Thème, réalisé par Yaël Mandelbaum. We readied ourselves, steadied ourselves to become all that we were never meant to be. We readied ourselves to steal dominion from everything else just so we can live comfortably.
J'étais une enfant terriblement timide. Le théâtre noir et les arts sont devenus mon refuge. Mais les organismes artistiques dirigés par des personnes noires sont historiquement sous-financés. Ils n'ont pas les mêmes possibilités de raconter leurs histoires.
Depuis plus d'une décennie, la TD soutient des organismes qui s'efforcent d'éliminer les obstacles et de créer des espaces sûrs pour que les créateurs noirs puissent être maîtres de leur récit. Cela fait partie de notre engagement pour un avenir plus inclusif.
Et avant de vous donner un avant-goût sur certains artistes qui seront en vedette lors du festival Kumbaya, au Harbourfront Center, et oui, des artistes parrainés par notre amie Nadine McNulty, fondatrice de Batuki Music Society et animatrice sur cette antenne. Karibouni, l'émission à ne pas rater, toutes les musiques du monde et les musiques africaines, bien sûr, chaque dimanche après-midi à partir de 15h sur CUT-FM. Je vous rappelle que l'équipe du festival à Torontois Ciné Franco Jeunesse a sélectionné 9 films mettant en lumière des histoires de triomphe, d'inspiration, d'amour, de résilience et d'espoir pour sa 18e édition qui se déroulera du 17 février au 2 mars au Cinéplex Empress Walk, rue Young, entre Shepherd et Finch. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette émission car je vous donnerai quelques-uns de mes coups de cœur et du Ciné Franco Jeunesse et des rencontres, des entretiens passionnants grâce à nos médias partenaires, des rencontres exceptionnelles aujourd'hui avant la fin de cette émission. Découvrez la belle programmation de notre partenaire de toujours, cinéfranco.com ou popourichaud.com. C'est le rendez-vous soleil en plein hiver à Toronto. Le festival Kumba 2026 au Harbourfront Center revient en force pour célébrer comme il se doit le mois de l'histoire des Noirs. Et Batuki Music nous offre une très belle vitrine de musique afro-française le 15 février à la salle de concert The Fleck, Harbourfront Center Theatre, 231 Queens Quay West, toutes les infos sur harborfrontcenter.com ou popourishow.com. Et avant de passer au journal d'Haïti et des Amériques, je vous ai fait un petit montage grâce à DJ Debra. Question de vous donner un avant-goût de ce qui vous attend le 15 février prochain. Une belle façon de célébrer le mois de l'histoire des Noirs, mais aussi peut-être la Saint-Valentin. Eh oui, au Harborfront Center, dans l'ordre, Boubé, musicien nigérien spécialisé dans la musique touareg, souvent qualifié de blues du désert. Boubé plonge son public dans l'atmosphère envoûtante du désert et la richesse de la culture tamashek. Et en deuxième position, Karine au micro, qui est passée plusieurs fois à Toronto. Eh oui, auteur, compositeur, interprète dont l'intérêt pour la musique a débuté dès son plus jeune âge au Bénin. Elle vit aujourd'hui à Montréal. Et enfin, Nax Bitota, des performances musicales dynamiques, des ateliers, des conférences de Nax Bitota tissent des liens entre sa culture d'origine et toutes celles qu'elle a rencontrées au cours de son parcours, notamment celle de son pays d'adoption, le Canada, où elle vit depuis 16 ans. Reconnue pour sa musique qui mêle rythme africain, afropop et mutaishi, un style traditionnel unique de la République démocratique du Congo, elle présente son nouvel album 64 comme l'expression de ses pensées les plus profondes, des multiples facettes de sa personnalité artistique. Allez, je vous souhaite un bon festival Kumba 2026 au Harborfront Center. C'est un rendez-vous de Batuki Music Society et Nérine et sa belle équipe. Bon mois de l'histoire des Noirs sur CUT FM.
CIUT 89.5 FM. celebrating 35 years as the sound of your city.
Toronto, listen up. If you're into live music, art, spoken word, wellness, community, and just good vibes, then you're going to want to listen up. Kumba is Toronto's largest Black Futures Month festival, and it is back at Harbourfront Center this February. Now check this out. Kumba 2026 is all about celebrating Black creativity, culture, and the future-shaping contributions of Black communities through a mix of ticketed, free, and pay-what-you-wish events, making space for everyone to join in, no excuses. So, you can expect a legendary Jimmy Cliff tribute concert, plus an iconic drag show with Hollywood Jade Presents Diva, and a soulful Valentine's Day music special with Sean Jones, plus much, much more. Now, Kumba 2026 is presented by TD Bank Group through the TD Ready Commitment, which supports equity, access, and opportunity for Black artists and communities. So you need to do one thing. Mark your calendar, BG Squad, because all the fun is going down from February 1st to the 28th, so you better make sure I see you there.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Mois de mars, mois de la francophonie. Le mois de la francophonie met à l'honneur la langue française et la diversité culturelle des pays francophones. Ces célébrations sont organisées à l'échelle mondiale par des institutions francophones, des gouvernements, des associations et des communautés qui partagent l'usage du français. Tout au long du mois de mars, Popourri Show et ses partenaires vous invitent à de nombreux événements, jeux concours, concerts. Et oui, avec nos amis Francophonie en fête, émission spéciale et tirage au sort de cadeaux surprises. Mois de mars, mois de la francophonie, en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques, l'Organisation internationale de la francophonie et les rendez-vous de la francophonie, RFI, France 24 et TV5 Monde. Mois de mars, mois de la francophonie. 40 ans sur CUT-FM, le son de votre ville.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie, Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Merci de votre fidélité, merci d'être parmi nous sur www.cut.fm et merci surtout pour vos nombreux commentaires, nombreuses réactions. N'oubliez pas de vous inscrire au prochain festival Ciné Franco Jeunesse, cinéfranco.com, et qui dit mois de mars, dit mois de la francophonie, édition exceptionnelle
pour marquer les 40 ans de CUT 89,5 FM et Popourri Show. C'est le nouvel an lunaire et oui, nous sommes en très bonne compagnie. J'en profite pour souhaiter une très bonne et heureuse année à mes amis qui fêtent le nouvel an chinois. Gong Qi Fa Choy. Et oui, 2026 s'inscrit sous le signe du cheval, symbole d'énergie, de liberté, de renouveau et de prospérité. Un signe dynamique, souvent associé au mouvement, à l'optimisme et à l'audace, parfait pour amorcer une nouvelle année avec ambition. La première personne qui m'écrit reçoit un repas pour deux au Dynasty Chinese Cuisine, 69 rue Yorkville, Toronto. Une seule adresse. popourri@cut.fm. Bonne chance. Bon appétit si vous êtes à table. Place au journal d'Haïti et des Amériques.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Dans un instant, le journal, on parlera notamment de la décision russe de bloquer WhatsApp dans le pays. Et puis 20 minutes sur le continent américain avec Haïti à la une. Reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux à Port-au-Prince. Ils ont pu rencontrer des enfants, certains des très rares enfants enrôlés dans les gangs et qui ont réussi à s'en sortir. Vous entendrez aussi le père d'un enfant traumatisé, non seulement par les gangs, mais aussi par la police. Et puis nous serons en direct, comme chaque jeudi, avec notre confrère rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, dans le nord de la Martinique, les clients de la SOR manifestent contre des factures d'eau jugées exorbitantes.
Des montants qualifiés, entre autres noms d'oiseaux, de farfelus par les membres d'un collectif qui manifeste donc ce matin. Interview à suivre.
À tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On va beaucoup parler d'Haïti aujourd'hui et notamment du quotidien des enfants, ceux dont le quotidien justement est percuté par la violence des gangs, ceux aussi qui sont enrôlés, qui se retrouvent parfois malgré eux dans les groupes criminels. L'UNICEF estime que les enrôlements ont triplé en un an et qu'aujourd'hui les moins de 18 ans représentent la moitié des membres des gangs. Ceux qui arrivent à en sortir sont très rares et nos envoyés spéciaux, Achim Lipold et Justine Fontaine, ont pu se rendre dans l'un des foyers qui les accueille à Port-au-Prince, qui les accompagne une fois qu'ils se sont échappés.
On ne peut pas dire précisément où on se trouve ni à quoi ressemble ce bâtiment. Pour qu'il ne soit pas retrouvé par les gangs, le lieu est tenu secret.
C'est là où les enfants mangent. Et de ce côté, ce sont les chambres, ce sont les dortoirs des garçons. Et puis là-haut, on a un autre réfectoire et ensuite on a les chambres des filles.
Farah Moïse est la directrice du centre. Elle travaille pour l'Institut du bien-être social et de la recherche, chargée de la protection de l'enfance en Haïti.
En ce moment, nous avons 28 enfants. On a 17 ex-associés. Tout le reste, ce sont des enfants avec autre vulnérabilité.
Ex-associés, c'est-à-dire des enfants qui étaient enrôlés dans des groupes armés. Certains n'ont que 9 ou 10 ans. Le plus grand vient d'avoir 19 ans. À Port-au-Prince, ce foyer est le seul centre public qui accueille des enfants sortis des gangs. Il existe seulement un autre lieu similaire dans la capitale, un centre géré par une ONG.
Non, celle devant, celle d'abord. Merci, oui.
À l'étage, les enfants apprennent à compter.
3 devant, 0 derrière.
Ils dessinent aussi. La directrice du foyer nous montre un cahier avec des dessins d'armes automatiques.
C'est toujours ce qu'ils ont vécu dans leur milieu qu'ils dessinent.
La plupart des enfants qui étaient enrôlés dans les gangs sont des garçons, mais les groupes armés recrutent aussi des filles. C'est ce qui est arrivé à cette adolescente de 16 ans. On ne peut pas donner son nom pour sa sécurité. Elle vient d'une famille modeste. Elle a les cheveux soigneusement tirés en arrière. On l'interviewe dans l'un des dortoirs des filles, devant 4 lits superposés aux draps colorés. Elle nous raconte que son père est mort et que sa mère avait des problèmes de santé mentale. L'adolescente a voulu aller la retrouver. Alors il y a 3 ans, elle est partie seule dans les rues de Port-au-Prince, où de nombreux gangs contrôlaient déjà une partie de la ville.
Je me suis perdue en cherchant ma mère. J'ai vécu dans la rue. Un jour, une fille m'a emmenée dans un gang. Les chefs ont voulu me violer. J'ai refusé, alors ils m'ont frappée avec leurs armes. Puis ils m'ont enfermée dans une maison et ils y ont mis le feu. Une femme a entendu mes appels au secours et elle est venue me sauver.
Mais sans contact avec sa famille, elle passe ensuite sous la coupe d'un autre gang.
Quand il y avait des combats, on me demandait d'envoyer des cocktails Molotov sur les blindés de la police pour les incendier.
Mais un jour, elle parvient à s'échapper avec une amie, même si elle n'a pas d'autre solution que de retourner vivre à la rue.
Un policier m'a trouvée et m'a emmenée à l'hôpital, puis dans ce centre.
Aujourd'hui, elle se sent bien dans ce foyer, mais elle aimerait vivre à nouveau avec sa tante.
Je voudrais retrouver ma famille, mais ensuite j'ai envie de partir à l'étranger, car j'ai vécu trop de choses difficiles en Haïti.
La réinsertion n'est pas toujours facile. Il y a quelques semaines, un enfant a fugué. Dans d'autres cas, ils ne peuvent pas ou pas tout de suite retourner auprès de leurs proches, explique la directrice du foyer.
C'est pas qu'on n'a pas pu trouver leurs parents on a pu les trouver, mais il y a des parents qui sont des membres du groupe armé et aussi il y a des parents qui habitent dans des zones de non-droit.
Des zones de non-droit, c'est-à-dire des quartiers tenus par les gangs, mais les familles n'ont souvent pas les moyens financiers de déménager.
Oui, ça.
On quitte le centre pour les locaux de l'UNICEF sur les hauteurs de Port-au-Prince. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance cofinance ce foyer dans le cadre de son programme Pré-Jeune.
Entre 30% et 50% des membres des groupes armés sont des enfants.
Gita Narayan est la représentante de l'UNICEF en Haïti.
Dans l'année 2025, il y avait une grande augmentation des enfants qui sont recrutés dans les groupes armés. L'augmentation, c'est de 200%. Plus que l'année avant.
3 fois plus d'enfants enrôlés dans les gangs, voici comment cela s'explique, selon elle.
Il y avait beaucoup plus d'opérations de PNH, la police nationale de Haïti, contre les groupes armés. Donc quand il y a les opérations, ça donne peur aux groupes armés. Et comment est-ce qu'ils se renforcent? Ils cherchent plus de membres. Et les membres qui sont le plus faciles, disons, ce sont les enfants.
Depuis 2 ans, près de 600 enfants ont été accompagnés dans le cadre de ce programme. Un grand foyer est aussi en cours de construction au Caï, dans le sud du pays. Mais ces initiatives restent encore très limitées face aux milliers de mineurs qui vivent sous la coupe des gangs. Harim Lipold et Justine Fontaine, Port-au-Prince, RFI.
Et au-delà de ces enfants qui échappent aux gangs à l'enrôlement, les autres ne sont pas non plus épargnés par les violences. Au contraire, beaucoup sont traumatisés, non seulement par les groupes criminels, mais aussi par la police, comme l'explique Patrick Joseph, travailleur social dans plusieurs quartiers sous contrôle de gangs. Il a déménagé avec sa famille à 4 reprises ces dernières années.
C'est une coupure, une cassure totale. C'est une autre grande habitude, la vivre avec parents, ses grands-parents, la vivre avec...
Pour les enfants, c'est une rupture totale avec tout ce qu'ils ont connu. Vivre avec ses parents, ses grands-parents, ses amis, aller à l'école, et tout d'un coup, tout bascule. Mon fils de 4 ans a changé d'école plusieurs fois. Il a passé 3 mois dans une école et après, nous étions obligés de changer de quartier, de nous installer ailleurs. Ce qui est dur, c'est quand tu te réveilles le matin. Tu ne sais pas à quoi t'attendre, ni ce que l'enfant va avoir sur le chemin.
Moi-même, personnellement, je compte peur pour ne pas croiser cadavre. Et ceci, c'est effectivement, c'est ça, me croiser. Petit, moi, j'ai regardé 1, 2, 3.
Un jour, mon fils a vu 3, 4 cadavres sur la route de l'école. Quand je suis venu le chercher, il m'a demandé si on avait retiré les corps qu'il a vus par terre. C'est traumatisant pour lui.
Donc, ça, c'est des bagages qui sont traumatisants. La police, gagne, pas qu'on est. Est-ce que c'est sous pression ou sous pression? Mais dans le moment, là, la police n'a pas épargné personne.
Et quant à la police, en ce moment, elle n'épargne personne. La semaine dernière, mon fils sortait de l'école. Sur le chemin du retour à la maison, nous sommes tombés sur un policier qui bloquait la circulation pour laisser passer un cortège officiel de véhicules. Il a braqué son arme sur un enfant de 4 ans. L'enfant s'est mis à trembler et à uriner sur lui. Non seulement les groupes armés terrorisent et traumatisent la population, mais à un certain niveau, on constate aussi que la police, par manque de professionnalisme, terrorise elle aussi les gens.
à un niveau, traumatisé à un niveau, mais on trouvait tout que même la police, à tout par manque de professionnalisme, a traumatisé la population tout à un niveau.
Le travailleur social Patrick Joseph au micro de notre envoyé spécial Justine Fontaine dans la capitale haïtienne. On reste en Haïti où l'on retrouve notre confrère, rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
La police, justement, vous l'évoquez aujourd'hui dans votre journal, il faut absolument se pencher sur son fonctionnement, dites-vous, sauver son âme pour sauver la République.
Tout à fait, c'est l'article d'un économiste, un économiste haïtien, Réginald Surin, qui écrit depuis quelque temps une série d'articles sur les problématiques qui concernent Haïti. Et cette fois, dans le Nouvelliste de ce matin, il aborde la question de la police, mais dans un angle très particulier, c'est que c'est un corps armé, qu'on est en train de réarmer, qu'on est en train de renforcer, mais il explique que dès qu'on donne des armes, il faut qu'il y ait une âme. Et s'il n'y a pas d'âme, la République va être en danger. Parce que les hommes armés en Haïti, des fois, changent de bord, changent de camp, deviennent eux-mêmes des problèmes. Alors il explique qu'il faut dès maintenant renforcer la police, mais aussi donner un chemin à la police, une âme à la police pour qu'elle ne nous échappe pas et ne mette pas en danger la République. C'est un article pertinent dans la situation qu'on vit actuellement, parce que des efforts importants sont en train d'être faits pour donner plus de moyens à la police et pour retourner avec l'armée d'Haïti. Dans son article, il rappelle l'histoire des forces de sécurité en Haïti, du temps de Duvalier jusqu'à aujourd'hui, et c'est vraiment pertinent, ça a beaucoup de sens, et c'est une réflexion qui est nécessaire dans un pays où on a une armée, mais où il n'y a pas vraiment un cadre, non seulement légal adéquat, mais aussi une idéologie derrière les forces armées. Il n'y en a pas.
Le tout dans un contexte politique qui est très incertain, dans un pays sous pression, sous influence même des États-Unis. Ça n'est pas vraiment nouveau, cette influence américaine, mais cette fois, les choses sont clairement dites, dites-vous.
Tout à fait. Les États-Unis ont pris des positions ouvertes, publiques, comme ils ne l'ont jamais fait dans le passé. Et la dernière en date, c'était le témoignage, l'audition de l'ambassadeur, enfin le chargé d'affaires américain qui joue le rôle d'ambassadeur à Port-au-Prince. Il était devant le Sénat américain, c'était une audition, ça a été rendu public, les Haïtiens ont pu entendre. Le texte ensuite a été publié par l'ambassade américaine à Port-au-Prince, où les Américains expliquent leurs objectifs en Haïti, les moyens qu'ils vont mettre en place. Ils font une radiographie de la situation, des forces de sécurité, radiographie de l'économie. Ils indiquent où est-ce qu'ils vont aller. Ils dénoncent les politiciens qu'ils viennent de mettre en échec, les membres du CPT qui voulaient rester. Ils font des accusations sur eux. Ils précisent ces accusations. Ils expliquent la situation des gangs. Pour la première fois, l'ambassadeur a donné ce qu'on croit être les vrais chiffres des effectifs de la police nationale d'Haïti, qui sont la moitié de tout ce que tout le monde disait depuis des années. Eh bien, tout ça, c'est pour dire que les choses sont clairement dites. Les dangers sont clairement signalés. Le chemin pour l'avenir est plus ou moins tracé. Maintenant, les Haïtiens sont au courant. Rarement, les Américains sont aussi transparents dans leur ingérence en Haïti.
Et puis, le Nouvelliste nous parle aussi ce jeudi de la volonté de la mairie de Delma de détruire les constructions illégales qui empiètent sur les trottoirs.
Le maire a mis ses bottes. Il est parti en chasse contre les constructions illégales qui ont colonisé les trottoirs de Delma. Il faut dire qu'une partie de Delma, c'est la partie la plus commerçante aujourd'hui de la capitale haïtienne avec Pétionville. Pétionville est saturée. Maintenant, les gens sont en train de coloniser les trottoirs de Delma et le maire a voulu faire le ménage, évacuer, briser, crasser et chasser les marchands. C'était comme chasser les marchands du temple. On ne sait pas s'ils ne vont pas revenir, mais le maire a fait une campagne spectaculaire hier avec des bulldozers, avec des officiers de sécurité et il a rasé beaucoup de commerces, de petits commerces, de gens qui avaient trouvé refuge sur les trottoirs de Delma.
Merci Franz Duval, en direct de Port-au-Prince. On vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque jeudi. Et d'ici là, on peut vous lire, bien sûr, sur le site lenouvelliste.com.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On va continuer à feuilleter la presse du continent. Avec vous, François-Damien Bourgerie, vous avez lu les journaux pour nous. Et aux États-Unis, ils se penchent, ces journaux, sur une défaite judiciaire de Donald Trump, puisqu'un grand jury de Washington a refusé d'inculper 6 élus démocrates qui avaient, en novembre dernier, appelé l'armée à désobéir aux ordres jugés illégaux du président américain.
Oui, et cela avait déclenché la fureur de Donald Trump. Le président les avait accusés sur son réseau Truth Social de trahison et réclamé la peine de mort. Et aux États-Unis, aujourd'hui, quand le président ordonne, eh bien, le ministère de la Justice exécute. De nos jours, écrit le Washington Post, personne au ministère de la Justice n'a la réputation ou le courage de dissuader efficacement le président de donner des ordres contre-productifs ou illégaux. C'est pourquoi les procureurs ont tenté de faire ce que Trump leur demandait. Le FBI a commencé à enquêter. Le bureau du procureur de Washington a tenté de faire inculper les 6 élus. Il a affirmé qu'ils avaient enfreint une loi interdisant toute atteinte à la loyauté, au moral ou à la discipline des forces armées. Sauf qu'une telle loi, estime le Washington Post, violerait évidemment le premier amendement, celui sur la liberté d'expression, si elle criminalisait les discours politiques exhortant les membres de l'armée à respecter la loi. La provocation politique n'est pas un crime, rappelle le quotidien. Les membres du Congrès doivent pouvoir critiquer l'utilisation de l'armée par le pouvoir exécutif. Échec donc.
Et ça n'est pas la première fois qu'un grand jury rejette une telle demande d'inculpation.
Non, c'est même de plus en plus fréquent depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. C'est ce que relève le New York Times. Pourtant, rappelle le quotidien, ces jurys composés de citoyens ordinaires étaient jusque-là plutôt connus pour suivre les demandes des procureurs ou, comme l'écrit ironiquement The Nation, pour leur capacité à inculper un sandwich au jambon. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, titre l'hebdomadaire, les grands jurys sauvent la démocratie, car avant l'épisode de mardi, d'autres grands jurys locaux ont refusé d'inculper la procureure générale de New York, par exemple, ou des citoyens surveillant les opérations de l'ICE à Chicago.
Direction le Venezuela, où le ministre états-unien de l'énergie est en visite et il a promis une hausse spectaculaire de la production de pétrole.
Oui, et cela ferait bien les affaires du mania de l'énergie Harry Sargent, qui lorgne depuis des années sur les réserves du pays et qui est donc en passe de remporter son pari. Le Wall Street Journal consacre un long portrait à ce milliardaire de 68 ans qui, avant le raid du 3 janvier conduisant à l'enlèvement de Nicolas Maduro, était le seul à faire régulièrement la navette entre la résidence floridienne de Donald Trump et le palais présidentiel vénézuélien, au point que le président déchu le surnommait affectueusement Abuelo, grand-père en espagnol, au point aussi que l'activiste vénézuélien Thor Allorfsen le qualifie de super méchant qui donne la priorité à son profit personnel, moins affectueux.
On reste au Venezuela où le Parlement s'apprête à adopter une loi d'amnistie historique. On en avait parlé avant-hier puisque le vote a été reporté une première fois. Eh bien, il devrait avoir lieu finalement aujourd'hui.
Oui, et cela redonne de l'espoir à Angel Gomez. Elle se souvient de ce matin du 15 avril 2022 où elle avait regardé sa mère se préparer pour aller au travail, ses bottes bien lustrées, cet insigne de la police municipale de Zamora cousu sur la manche de son uniforme. Elle pensait assister à ce moment où sa mère se transforme en super-héroïne pour affronter sa journée. C'était en fait le début d'un cauchemar qui dure depuis 4 ans et que nous raconte Tal Cual. La mère d'Angel Gomez a été inculpée notamment d'abus de pouvoir et de corruption. 13 chefs d'accusation au total en lien avec une sombre affaire d'expropriation ordonnée par le maire de Zamora et de lutte politique. 4 ans donc, pendant lesquels Angel Gomez s'est tue par peur des représailles jusqu'au 8 janvier dernier, lorsque le président de l'Assemblée nationale a promis la libération des prisonniers politiques. Alors, Angel Gomez a pris son téléphone pour raconter son histoire sur les réseaux sociaux. C'était à son tour de sauver sa super-héroïne. Aujourd'hui, à l'heure où l'Assemblée s'apprête à voter, elle se prend donc à rêver.
La revue de presse signée François-Damien Bourgerie.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Dans le Nord, les clients de la SOR manifestent contre des factures d'eau qui sont jugées absolument exorbitantes.
La SOR, c'est la Société d'aménagement urbain et rural. À l'appel d'un collectif, les usagers se sont rassemblés en effet ce matin devant le siège de la communauté d'agglo Cap Nord au Marigot pour protester contre des montants qualifiés, entre autres noms d'oiseaux, de farfelus. Écoutez Césaire Defrel, porte-parole du collectif. Il est au micro de Christine Cupit.
Des sommes exorbitantes, des sommes farfelues, des gens qui pleurent, des grandes personnes du tout, qui payent 6 000 euros d'eau, 1 500, c'est pas possible tout ça. Donc il faut faire quelque chose, il faut que ces gens-là nous comprennent et faire quelque chose pour nous. Donc nous voulons discuter avec eux pour voir effectivement quel est le problème. Parce que c'est un vrai problème pour les abonnés du Nord-Atlantique. Surtout, l'eau sort chez nous. Je pense qu'avec la SME, les choses tournaient bien. Les choses tournaient bien parce qu'on payait tous les 3 mois. 6 mois, tous les 3 mois, on payait une facture. Maintenant, on paye une fois. Donc, les gens trouvent ça très exorbitant avec des relevés farfelus.
Et pour ne rien arranger, plusieurs usines de production d'eau ont été arrêtées dans le nord de la Martinique. Suite, ça ne s'invente pas, à de fortes pluies, d'où des perturbations dans la distribution d'eau au Lorrain, à Sainte-Marie, au Marigot et au Gros-Morne. Direction la Guyane, avec cet après-midi le premier lancement 2026 de la fusée Ariane 6 dans sa version 4 propulseurs. Jean-Marc Dabreux était en direct sur la première Guyane ce matin dans le journal de 7 heures.
Nous étions tout à l'heure au niveau du pas de tir d'Ariane 6 à quelques centaines de mètres de cette fusée qui s'est donc débarrassée de son portique. C'est une immense structure qui entoure la fusée et qui permet aux techniciens ingénieurs d'intervenir sur le lanceur jusqu'à la dernière minute. Et cette opération s'est effectuée tout doucement, comme d'habitude, ce matin aux environs de 5 heures et donc libérer cette fusée qui, pour la première fois dans cette configuration de 4 boosters, apparaît avec notamment un point culminant de 62 mètres de hauteur. C'est 20 mètres de plus que la dernière version d'Ariane 6 qui était lancée à la fin de l'année avec 2 propulseurs. Alors c'est une mission importante pour Ariane Espace aujourd'hui. Importante d'abord parce qu'évidemment ça permet d'inaugurer cette nouvelle version, mais c'est surtout un premier vol commercial avec un client majeur pour Ariane Espace, le plus grand client de l'histoire spatiale européenne, Amazon, qui a commandé pas moins de 18 fusées pour lancer ces satellites de télécommunications qui permettront de fournir des réseaux de télécommunications Internet pour le monde entier. La fenêtre de tir entre 13h45 et 14h15, on a une fenêtre de tir pour ce lancement avec 32 satellites donc qui vont être lancés. La mission va durer 2 heures. Et bien évidemment, on croise les doigts pour que tout se passe bien ici, au Centre Spatial Guyane.
13h45, 14h15, heure de Guyane, bien sûr. Autrement dit, 17h45, 18h15, tout à l'heure en heure de Paris. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand.
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Eh oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto. Et oui, la saison carnavalesque des Antilles a été officiellement lancée le 4 janvier dernier. Ce sont des fêtes populaires et métissées célébrées de l'Épiphanie jusqu'au mercredi des cendres. Chaque dimanche, j'aurai le plaisir de vous dépayser en vous invitant de suivre nos DJ, nos correspondants, en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Allez, je vous invite, madame, monsieur, à me suivre au soleil, en hiver, avec Popourri Show, CUTFM, qui fête 40 ans dans le paysage audiovisuel de Toronto et du Canada. Bon carnaval!
Eh oui, nous sommes dans la fièvre du festival Mardi Gras. Le 17 février, c'est Mardi Gras en effet, et justement j'ai l'immense plaisir de vous mettre un peu de soleil dans votre hiver. Je vous invite un plongeon dans la chaleur tropicale, dans certaines des parades carnavalesques. Nous étions justement cette semaine en Haïti, dans les répétitions, avec des artistes militants engagés qui ont trouvé les mots justes de résilience dans leurs textes. Et oui, nos encouragements bien sûr, et nos pensées vont au peuple haïtien qui traverse des moments très difficiles en ce moment. Puis, destination Martinique et Guadeloupe. Le Mardi Gras aura lieu le mardi 17 février. C'est l'apogée du carnaval, marqué par les défilés de Diable Rouge et des costumes colorés. Les festivités des jours gras se déroulent du dimanche 15 au mercredi 18 février. Mercredi, c'est le mercredi des cendres. Alors, madame, monsieur, je vous souhaite un très bon Mardi Gras. Place à la fête!
Commencez à trembler, sa cap dormi réveillé, les arrivés. Haïtien nous sous bonne direction, nous n'en bataille, mettez-nous en action. Nous conseil chef révolution, GP, c'est le cap aux solutions. Oui, n'est-ce que tu es t'en pas nous voir en main. Même la lèvre est campée rapide, ni mettez-y en fin. Justice pour président, comment se faire chimer? Et puis, si fait la carnation, yo.
Oui, chaque révolution arrivée.
Oui, bien oui, là.
Président de Philippe, le bagabane.
Comment il?
Oui, la boule. La terre arrivée. Mais pas ici, c'est le vrai victoire.
N'est que d'un pays en quoi? Que quitte la bon pouvoir. Y'a fait si la toi, yo compense, yo que c'est loi. C'est chaque 6 mois. Une fois si coûte, n'en pouvoir si pas scoute là. Peuple a des frais dans ça.
Pays à monter, mais y'a refusé. La jeunesse réclame, mais y'a refusé. Diaspora y'a monté, mais y'a refusé.
Qui filé dans le royaume? Pili-pip, peuple haïtien.
Dans des royaumes,
moi tu chef révolution.
Dans le royaume, nous avons des nous pas faillés.
Président du Philippe, peuple haïtien, mais l'Europe.
Peuple haïtien, mais l'Europe. Méchant yo commencé trembler, sa cap dormi réveillé, les arrivés. Haïtien nous sous bonne direction, nous n'en bataille, mettez-nous en action. Nous conseil chef révolution, GP, c'est le cap aux solutions. Oui, n'est que t'es compris, nous t'en pas nous voir la main. Même la lèvre est campée rapide, ni mettez en fin. Pour président, comment se faire chimer? Et puis, si fait la carnation, yo.
Sing along now. Sing along now.
son avalan. Si coco violo, ou trop comparaison. Va malgré enragé, violo balé fini.
Oui, Mario. C'est comme ça, c'est bon. À ce moment-là, c'est bon ça.
Sosé lo meo, aunque la lua. Digo con violo, vale gubi con avala. Tradición nua, pa' que te disparete.
L'année 2026 marque un jalon historique majeur avec 40 ans de CUT FM et Popourri Show. Une année avec des événements, des colloques, des débats, des rencontres littéraires, des concerts et des émissions en direct sur les campus et chez nos partenaires de toujours. Des moments privilégiés pour célébrer l'histoire et l'avenir de CUTFM et de Popourri Show. Si vous souhaitez participer à nos événements tout au long de 2026, veuillez nous écrire à popourri@cut.fm.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donne envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca.
Mois de mars, mois de la francophonie. Le mois de la francophonie met à l'honneur la langue française et la diversité culturelle des pays francophones. Ces célébrations sont organisées à l'échelle mondiale par des institutions francophones, des gouvernements, des associations et des communautés qui partagent l'usage du français. Tout au long du mois de mars, Popourri Show et ses partenaires vous invitent à de nombreux événements, jeux concours, concerts. Et oui, avec nos amis Francophonie en fête, émission spéciale et tirage au sort de cadeaux surprises. Mois de mars, mois de la francophonie, en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques, l'Organisation internationale de la francophonie et les rendez-vous de la francophonie, RFI, France 24 et TV5 Monde. Mois de mars, mois de la francophonie. 40 ans sur CUTFM, le son de votre ville.
Quoi de neuf, les cafés du Créfou. Eh oui, nos amis du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Avec la soif d'apprendre, un membre du CREFO s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisy.utoronto.ca/fr/CREFO ou tout simplement popourrishow.com. Et oui, ne manquez pas la prochaine conférence du CREFO. Cette conférence sera en ligne le 25 février prochain avec Astudiam, étudiante au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique, et Suzanne Huot, professeure agrégée à l'Université de la Colombie-Britannique. La thématique, les dynamiques d'hospitalité vécues par les immigrants d'Afrique de l'Ouest centrale dans la région métropolitaine de Vancouver. Ah oui, une étude très intéressante qui pourrait nous intéresser. Et justement, l'objectif était d'explorer les expériences d'hospitalité des immigrants de pays africains ayant migré vers le Grand Vancouver. Et oui, études menées avec des cas qualitatifs, critiques, selon 40 entretiens individuels approfondis menés avec des immigrants originaires du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Ghana et du Nigeria. Invitation donc
à la conférence d'Astutiam et de Suzanne Huot le 25 février de 17h30 à 19h, organisée par le CREFO en partenariat avec l'Observatoire en immigration francophone au Canada. Je vous invite à vous inscrire immédiatement sur le site du CREFO ou retrouver le lien sur popourichaud.com. Je tiens à remercier Batuki Music Society pour sa participation à notre émission et vous retrouverez justement tous les rendez-vous, les concerts de ce mois-ci sur batukimusic.com. On vous attend ce soir au Overfront Center dans le cadre du festival Kumba, grand festival annuel pour célébrer comme il se doit le mois de l'histoire des Noirs. Merci à Sophie Franc et Festive Eben qui vous attend en grand nombre pour la clôture de ce festival annuel, 19e édition, le 28 février prochain. Le CREFO, mille merci, Ciné Franco et tous nos partenaires. Merci à DJ Devera et les DJ du monde qui soutiennent, qui participent régulièrement à notre émission. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche, bonne année à tous mes amis qui fêtent le nouvel an chinois. Que la force soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.
Si tous les jours nous cataraille, dimanche qui vient nous au combat, je t'ai poussé, nous qui pouillossé, on pense à m'assembler, le dimanche qui vous nous est, nous dit
c'est nous qui
l'a,
nous
dit yo,
nous
dit yo,
c'est nous qui l'a,
nous dit yo,
c'est nous qui l'a,
allez prier le répondeur,
c'est nous qui l'a,
c'est nous qui l'a,
nous dit yo,
c'est nous qui l'a,
nous dit yo,
c'est nous.
I got my